Alors, on imagine, on fait un petit sondage, on va dans la rue là, après le culte, et puis on pose une question, on pose la question à des gens sur le quorum ou place de la Comédie. Pâques en un mot. Et je pense qu'on aura deux types de réponses. Chocolat et puis résurrection. Alors, qu'est-ce que Pâques? Je commence par quelque chose de facile. Merci pour l'eau. Alors, je vais d'abord donner une explication toute simple. Enfin, je vais essayer de faire simple et résumer en 2 minutes ce qu'est Pâques dans la Bible. Pâques, c'est d'abord une fête. C'est quelque chose de joyeux. C'est un triomphe. Et Pâques dans la Bible, ça apparaît alors de manière explicite, parce que ça apparaît de manière implicite avant, mais de manière claire, ça apparaît quand le peuple des Hébreux, qui était prisonnier esclave du pays d'Égypte, eh bien, va être délivré par la main puissante de Dieu. Vous savez, hein, on a tous vu Moïse, les 10 commandements, tout ça, donc il y a un bras de fer entre Pharaon et Dieu. Et Pharaon, ben, subit 9 fléaux et puis il tient toujours, il veut pas libérer le peuple de Dieu. Et Dieu amène un dernier fléau, le 10e, où tous les premiers-nés, tant du bétail que des êtres humains, du peuple égyptien, vont mourir. Et ça va être le dernier fléau. Et Dieu demande à son peuple pour se préparer, pour échapper même à ce fléau, de sacrifier un agneau. Et c'est là où il institue la fête de Pâques, sacrifier un agneau, et on prend le sang de l'agneau et on en badigeonne les linteaux des portes, des maisons des Hébreux. Et quand l'ange exterminateur vient pour faire la justice de Dieu, il tue tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant du bétail que des êtres humains, sauf là où le sang était badigeonné sur les portes. Et c'est à ce moment-là que Dieu institue la fête de la Pâque en souvenir de la délivrance de celui qui était plus fort et qui opprimait le peuple hébreu. Donc, Pâque, c'est une fête, parce que c'est une libération. Ça fête quelque chose qui se libère d'un coup. Et on pourrait dire que Pâque, c'est un retournement de situation au dernier moment. Alors Dieu, il aime bien ça, les derniers moments. Il y a la pression qui s'accumule, il y a la tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et au dernier moment, paf, tout se retourne et happy end, le soleil revient, tout va bien. Mais au dernier moment, ah ça c'est comme ça. Alors Jésus a repris, il s'est identifié en fait au peuple. Et on voit très bien ça dans Matthieu. Alors je vais m'arrêter là, hein, je vais pas faire plus loin, mais Jésus s'est identifié au peuple, il a revécu les étapes du peuple, et notamment Pâques, il est l'accomplissement suprême de Pâques, dans le sens qu'il s'est présenté comme un agneau et qui a été sacrifié. Et la croix, c'est exactement ce sacrifice de l'agneau, et le sang qui coulait de la croix faisait référence à ce sang qui protégeait de la justice de Dieu. Et donc, Jésus, en fait, quand il est allé à la croix, c'est exactement au moment de la fête de Pâques, et il est mort. Et la bonne nouvelle, c'est que il n'est pas resté mort. Et le troisième jour, il est revenu à la vie, et il s'est manifesté à ses disciples. Et ensuite, ses disciples ont lancé la bonne nouvelle au monde entier. Et maintenant, tout le monde sait, au moins tout le monde a au moins entendu une fois que Jésus est vivant. Alors, je m'arrête là pour la partie petite étude de ce matin. Et la question que je voudrais nous poser ce matin, c'est, ok, on peut connaître cette histoire, on peut connaître ce fait historique, il y a 2000 ans, un peu plus peut-être de 2000 ans, mais qu'est-ce que ça change à ma vie? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que Pâques a changé à votre vie? Est-ce que ce qui s'est passé à Pâques a changé quelque chose dans votre histoire? Et je pense que face à des choses comme ça, c'est la bonne question. On peut vivre Pâques comme un moment traditionnel, on le fait parce qu'on l'a toujours fait, et puis c'est vrai, c'est sympa, il y a les chocolats, il y a tout le folklore à côté, mais est-ce que Pâques a une résonance dans votre histoire, dans mon histoire? Alors pour illustrer ça, j'ai pensé à une histoire qui voilà, dans mon histoire, c'est le mur de Berlin. Alors moi j'ai grandi en Franche-Comté, dans le Doubs, tranquille, enfance paisible. Mon épouse a grandi à Berlin-Ouest, dans le quartier anglais, entourée du mur. Et donc mon épouse a grandi avec cette conscience toujours d'un enfermement. Et rien que pour aller en vacances en mer Baltique, c'était tout un bazar. Il fallait passer les checkpoints, etc., etc. Interdiction de regarder ce qui se passe à l'est. Hein. Donc, quand ils traversent l'est entre Berlin et puis la partie ouest, ils n'avaient pas le droit de regarder ce qui se passait à l'est. Il y avait vraiment une oppression. Et puis un jour, le mur est tombé. Alors pour moi, le mur est tombé de Berlin, c'est un fait de l'histoire. Et oui, c'est important, je le comprends, etc. Mais ça ne me touche pas plus que ça. Ça fait partie de l'histoire. En revanche, pour mon épouse, ça fait partie de son histoire. Ça impacte son vécu. Il y a tout un flot de souvenirs. Et quand le mur de Berlin est tombé, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle a pris des jours de congé, elle s'est acheté un billet et elle est allée prendre un bout du mur avec son marteau, avec tous les autres. Elle allait taper pour prendre un bout du mur et casser ce mur. Donc c'était un petit exemple pour montrer que la Pâque, ça peut être autant quelque chose d'éloigné que quelque chose qui vient percuter notre histoire, quelque chose qui a une résonance, quelque chose qui vit en nous. Et quand on dit « Jésus est vivant », ça peut être une vérité que je peux contempler comme ça, mais qui n'est pas dans ma vie. Ou alors, je peux dire « Jésus est vivant et je le sens en moi ». Jésus est vivant en moi. Il est ressuscité en moi. Et c'est dans cette différence-là que j'aimerais nous conduire ce matin. Alors pour parler de Pâques, j'ai choisi un passage que j'aime bien. Et si Tania, tu peux le mettre. Non, c'est Florence. Alors c'est un passage d'un homme comme vous et moi, un homme qui avait des qualités, qui avait des défauts, qui avait un caractère particulier. Un homme qui, voilà, il était lancé dans sa vie, et puis il était déterminé à réussir sa vie, certainement comme vous et moi. Et cet homme a aussi en commun avec nous qu'il n'a jamais rencontré Jésus physiquement. Il s'est converti, il est devenu chrétien sans voir Jésus, sans le toucher. Les apôtres, les douze, eux, ils ont touché Jésus, ils ont parlé avec lui, ils l'ont entendu, pas cet homme qui est Paul, l'apôtre Paul. Alors il a écrit un texte que j'aime beaucoup, c'est dans la version de la Colombe, et je vais le lire avec vous. C'est vrai que c'est vraiment pratique hein, ce petit machin derrière. Hein. « Mon but est de le connaître, lui. » Et là il parle de Jésus-Christ. « Ainsi que la puissance de sa résurrection. » Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection. Paul a dit beaucoup de choses. Il a écrit quand même plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament, mais je trouve que ce qu'il dit là est particulièrement fort. Et ce que j'aime chez Paul, c'est que parfois, en très peu de mots, il dit beaucoup de choses. Et pour moi, dans ces mots-là, il y a Pâques. Il y a tous les éléments de Pâques. Il y a connaître Jésus, il y a sa mort, et il y a la puissance de sa résurrection. Parce que le focus de Pâques, en fait, c'est la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection, la vie. Mon but est de le connaître, dit Paul. Pourtant, Paul, s'il y a quelqu'un qui connaissait bien Jésus, c'est Paul, l'apôtre Paul. Il a tellement écrit sur lui. Et pourtant, il dit, mon but est de le connaître. Comme s'il n'avait pas assez connu Jésus. Comme s'il sentait que ce qu'il avait connu, c'était juste un petit peu, un petit pourcentage de ce qu'il pouvait encore connaître. Connaître Jésus. C'est vrai qu'on peut se dire, après des années de vie chrétienne, bon, c'est bon, je le connais, Jésus, ça va. Dans l'église où j'étais avant, j'ai longtemps servi avec des ados. C'est vraiment intéressant, ça, de s'occuper des ados dans l'église. Et parfois, on a l'impression de les saouler avec Jésus, parce qu'ils en ont tellement entendu depuis qu'ils sont tout petits à l'école du dimanche. Ouais, mais c'est bon, ça va, on la connaît, l'histoire, quoi. Et là, on voit que connaître, il y a connaître et connaître. Ce que j'aime chez Paul, c'est qu'il a des mots intenses. Au moins, moi, je trouve qu'ils sont intenses. Ils me parlent. Ce n'est pas juste la chantilly, comme disait Marie-Hélène. Mais il y a une consistance. Et un petit peu avant ce texte, dans le même passage, hein, Philippiens 3, il dit « Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul n'était pas marseillais. Paul utilisait des mots précis, pesés. Et on sent que quand il dit « mon but est de le connaître », il livre quelque chose de très important pour lui, quelque chose d'essentiel pour lui. « Mon but est de le connaître », une vérité qui est au cœur même de son être, de ce qui le motive, une vérité qui le porte. J'avais l'image, je n'ai pas trouvé, mais les vieilles locomotives qui tiraient les vieux trains et qui étaient alimentées au charbon. Et y avait le four, je ne sais pas comment on appelle ça, le fourneau dans la locomotive. Et c'est ça le cœur qui donne l'énergie à la locomotive et qui tire tous les wagons. Et cette vérité-là, ce qui s'est passé à Pâques, ça, c'était dans le fourneau de Paul, de l'apôtre Paul. C'était une vérité qui le faisait avancer, qui le tirait vers l'avant et qui lui donnait cette énergie pour amener tout le reste. Alors, je voudrais retracer un peu le parcours de Paul, qui avant de s'appeler Paul, s'appelait Saul. Quel est ce Jésus que Paul a connu? Alors, tout d'abord, je dirais que Paul a rencontré Jésus mort sur la croix. Le premier Jésus que Paul a rencontré, c'était un Jésus crucifié, mort sur la croix. Saul, Paul, avant sa conversion, avait pris sa vie en main. Et on voit dans les Actes, quand il témoigne, c'était un homme déterminé. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Il voulait réussir sa vie et il était très déterminé. Circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, c'est-à-dire le top du top à l'époque pour l'engagement. Quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Je crois qu'il y a peu qui auraient ce CV aujourd'hui. Paul était à fond. Paul était décidé à réussir sa vie. Mais il lui manquait quelque chose. Et peut-être qu'il ne le savait pas. Peut-être qu'il n'avait pas conscience, ce Paul, ce Saul-là, que dans sa vie, lui qui était un fonceur, il lui manquait quelque chose. Et malgré toute sa réussite, malgré le brillant avenir qui était devant lui, malgré tous ses efforts, c'était un homme d'une discipline extraordinaire, il lui manquait quelque chose. Mon but est de le connaître. Dans Éphésiens, il reprend un peu les mêmes mots. Et il dit « connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance ». Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Mais quand on comprend qui dit ça, c'est Paul, un érudit. Je crois que c'est un des gouverneurs d'une contrée romaine qui dit « ta grande érudition, Paul ». Paul était reconnu comme un homme érudit. Il était un étudiant de Gamaliel. Il avait connu les meilleures formations de son époque. Il avait une connaissance très vaste. Et d'ailleurs, c'est visible dans les épîtres. Et lui, il dit « l'amour du Christ surpasse toute connaissance ». Ce que j'aime chez Paul, ce que j'aime dans ces versets, c'est que ça nous montre les essentiels. Ça nous montre des lignes claires qu'on peut suivre, qu'on peut garder, qu'on peut même prendre, comme dans ce verset, un but pour sa vie. Quand Paul a rencontré Jésus, Paul a rencontré l'amour. Paul a rencontré quelque chose qui lui manquait. C'était cette dimension d'amour. Et peut-être qu'il avait approché Dieu avec un immense respect, une crainte, mais il lui manquait cette connaissance d'un Dieu d'amour. Vous savez, là, on parle d'un amour qui ne se trouve pas parmi les relations qu'on peut vivre et qui sont belles. Ce n'est pas l'amour d'une femme, d'une épouse, d'une fiancée. C'est encore au-delà. C'est l'amour avec un grand A. Et quand Paul a rencontré cela, sa vie a changé. Il a fait un demi-tour radical. Lui qui était si déterminé à réussir, il a tout lâché pour suivre cet amour. Mais comment Paul a connu l'amour? Comment il a vu l'amour avec Jésus? Est-ce les paroles? Il a entendu les histoires? Où exactement Paul a-t-il vu l'amour de Jésus-Christ? Je pense, je suis certain même, c'est que Paul a vu l'amour de Jésus à la croix. Et l'amour de Jésus-Christ, c'est la croix. Ce n'est pas juste l'émotion, la vague de chaleur qu'on peut ressentir quand on entend parler de Dieu, quand on est dans un temps de louange. Oui, ça c'est l'amour, le Saint-Esprit vient et nous parle de l'amour. Mais l'amour est vraiment connu, nous le connaissons, nous le rencontrons à la croix, quand nous regardons la croix. Et quand Paul persécutait les chrétiens, quand Paul était sur le chemin rempli de menaces et de meurtres, dit le texte dans les Actes, Jésus est venu et Jésus lui a dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, il a eu cette révélation puissante qu'en fait, il ne persécutait pas les ennemis de Dieu, il persécutait Dieu. Et son cœur a été brisé. Le péché nécessite une révélation. Et quand Paul a vu son péché, vous imaginez l'horreur. Il avait tué des gens, il avait permis le meurtre des hommes et des femmes de Dieu. Il a vu une horreur. Et ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que Dieu ne peut pas effacer le péché simplement parce qu'il nous aime. Un coup d'éponge, je t'aime, c'est pas grave, et tout va bien. Dieu ne peut pas faire cela, parce que Dieu est juste. Il est le garant de la justice. Et à cause de cela, il doit sanctionner le péché. Et la seule sanction possible de nos péchés, c'est la mort. Et on se dit, moi, j'ai pas tué, j'ai pas persécuté l'Église, etc. Mais en fait, tout est histoire de révélation. Paul a été un pilier de l'Église, un pilier, un écrivain du Nouveau Testament si puissant. Pourquoi? Parce qu'il a eu une révélation très puissante de ses péchés. Mais je crois que nous tous, nous gagnerons à avoir une révélation puissante de nos péchés. Nous sommes tous profondément pécheurs. Tout ce que nous avons fait comme acte mérite ce mot d'horreur. Et on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on juge avec nos standards. La seule sanction du péché, c'est la mort. C'est la séparation. Parce que Dieu veut séparer le pur de l'impur. Parce que Dieu sépare l'homme pécheur de sa personne qui est sainte. Alors, Paul a vu Jésus mourir à sa place. Et ça, c'est extraordinaire pour lui. Ça, c'est quelque chose qui a dû le bouleverser. Lui qui avait une conscience si précise, si horrible de son péché, il a vu Jésus lui dire « Je prends ta place. Je meurs pour toi. » Et c'est pourquoi Paul sait écrire sur ces choses avec tant de puissance, tant d'impact. Il dit en Romains 5 « Au moment fixé par Dieu, Christ est mort pour des pécheurs. » À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Et quand Paul dit ces choses, il y a son vécu derrière. Ça a de la force. Alors le premier Jésus que Paul a rencontré, c'est le Jésus mort à la croix. Et j'imagine qu'on ne va pas arrêter de méditer, d'être reconnaissant envers ce Jésus qui a pris notre place à la croix. Mais ça ne s'arrête pas là. Et Paul a aussi rencontré un Jésus vivant, le ressuscité. Pas un mythe, pas un héros, pas un Jésus en statue. Connaître dans la Bible, c'est beaucoup plus qu'une connaissance, un savoir intellectuel. Connaître dans la Bible, dans la pensée biblique, signifie ou contient faire l'expérience de. Connaître, ça engage l'être entier, notre psyché, parfois même notre corps. Et d'ailleurs, dans la Bible, pour faire l'amour, la Bible utilise ce mot « connaître ». Donc il y a une intimité, une profondeur dans la connaissance. Et quand Paul dit « mon but est de le connaître », on voit que c'est son être entier qui s'est engagé dans une connaissance de Jésus. Et c'est parce qu'il avait goûté à quelque chose de merveilleux. C'est parce que ce qu'il avait vécu était tellement fort, tellement authentique. Pourquoi Jésus est vivant change tout ? Eh bien parce que Jésus vivant permet une relation. Parce que Jésus vivant permet qu'aujourd'hui, moi, je peux parler à Jésus. Et je peux savoir qu'il m'entend, qu'il m'écoute. Mais je peux aussi écouter Jésus. Et si on le fait, il parle vraiment. Il parle vraiment. L'amour de Jésus a coulé en Paul tous les jours. Cet amour qui affirmait le pardon de Dieu à son égard. Cet amour qui a permis à Paul de se réconcilier avec lui-même. Après tout ce qu'il avait fait, c'était dur de se réconcilier avec lui-même. Mais pourtant, l'amour de Dieu est venu pour lui dire « Je t'aime, tu es mon fils, tu es mon serviteur, je suis fier de toi. » Ça reconstruit un homme. Mais l'amour, encore plus que ça, a permis à Paul d'être un homme de compassion et à regarder les autres avec un amour, de pouvoir s'exprimer avec des paroles qui portent une telle dose d'amour, compassion de Dieu. L'amour, l'amour. Et ce que j'aime dans ces paroles de Paul, c'est qu'on voit l'amour que Paul avait pour Jésus. Quand on est beaucoup aimé, on aime en retour beaucoup. Et là, on voit combien Paul aimait Jésus. Mon but est de le connaître, lui, Jésus-Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. Comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, la vie est accompagnée de force. Quand Dieu fait les choses, il les fait correctement. Il les fait avec intelligence et logique. Et en Jésus, il a déployé l'amour et la vie. Mais pour protéger ce développement, il a accordé la puissance. La puissance accompagne, suit naturellement la venue de l'amour et de la vie. Et c'est pourquoi, quand nous nous convertissons, quand nous devenons chrétiens, on rencontre, on est impacté par cet amour. Et puis, il y a quelque chose qui revit en nous et Dieu veut remplir cela de puissance, d'une puissance de vie qui, en fait, c'est la puissance de la résurrection qui vient animer les enfants de Dieu. parce que Dieu veut protéger, veut garantir le bon développement de ce qu'il a mis en nous. C'est pourquoi, quand je cultive ma relation avec ce Jésus dont Paul parle, ce Jésus peut-être que j'ai reconnu comme celui qui est mort à la croix pour moi, quand je cultive ma relation avec Jésus, le pas qui suit, ce qui vient après, c'est la puissance qui veut venir dans ma vie. Comme si la puissance vient toquer à la porte de mon cœur et dit « je veux venir ». Et la puissance a un nom, c'est la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus est celui qui est mort à la croix, mais ça ne s'arrête pas là. Il est aussi celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui envoie le Saint-Esprit. Alors là, nous sommes dans l'entre-deux. Jésus est mort, c'est derrière nous, nous sommes à Pâques, il est ressuscité, la Pentecôte est devant, le Saint-Esprit va venir avec puissance. Vous voyez, tout le processus, tout le programme de Dieu. Pâques, en fait, c'est ça. La vie du Christ en nous, c'est ça. C'est ces promesses-là, c'est cette réalité-là, aujourd'hui, en nous, chrétiens. Et c'est ce qui pousse Paul à dire « Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Paul, en fait, vivait avec une Pâque permanente. Cette vie bouillonnait en lui constamment, constamment. La vie de résurrection coulait à travers chaque chose qu'il faisait. C'était là. C'était dans son histoire, c'était connecté à son histoire. Et ça coulait, et ça coulait, et ça coulait, sans arrêt. Ça fait longtemps que j'ai découvert ce texte. Vous savez, des fois on trouve des perles comme ça dans la Bible, et puis on s'y attache, et puis on le médite. Et moi, ça fait des années en fait que j'ai ce texte, et j'ai toujours été étonné dans ce texte avec la suite. Le connaître, la puissance de sa résurrection, ça commence bien. Et puis, à un moment, la communion de ses souffrances. Ah, mince! Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Là, ça me plaît moins. En devenant conforme à lui dans sa mort. Étonnant, étrange association dans la pensée de Paul. Nous sommes appelés à une vie de puissance. Mais pas à une vie de puissance dans l'orgueil. Vous savez, cette puissance triomphaliste, hein, le truc, ouais, tu verras, tout est facile, t'as la foi, tac, tac, tout tombe et tout, et puis tu, intérieurement, tu t'enfles, tu gonfles. Non, pas cette puissance-là. Pas de cette manière. Nous sommes appelés à une vie de puissance qui se manifeste dans le paradoxe. C'est-à-dire, quand les choses semblent se contredire. Et Paul, ça imprègne en fait tout ce que dit Paul. Il dit par exemple en 2 Corinthiens, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. On nous regarde comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons les autres. » Paradoxe. Paradoxe. Ça semble se contredire, mais ça ne se contredit pas. Dieu fait des associations pour prouver que c'est lui qui agit et ce n'est pas la force de l'homme. Pour prouver que ce n'est pas le naturel, c'est le surnaturel qui est à l'œuvre. Et ça nous encourage. Parce que moi, quand je regarde ma vie, je me dis, mais je suis tellement loin d'un Paul, je suis tellement loin de tous ces beaux exemples qu'on peut voir ou de l'image que je fais d'un grand ministère. Je suis tellement loin de ça et ça m'encourage. Parce que Dieu agit avec des faibles. Dieu agit avec des pauvres. Nous sommes vus comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Il dit même à un moment, « Je déborde de joie au milieu de mon affliction. » Alors à clé, on doit faire des petits témoignages. Donc là, c'est la séquence témoignage. Et je... M'y plie, hein. On peut imaginer, enfin, des fois, on imagine que parce que quelqu'un prêche ou quelqu'un fait des études de théologie comme moi, eh ben, on sait tout, on vit tout, etc. J'ai compris quelque chose dernièrement, quelque chose que je savais, dans ma tête, dans mon intellect, je le savais. Peut-être même je l'ai dit dans une prédication, mais je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas saisi dans l'esprit. La joie est spirituelle. Quand la Bible parle de joie, quand Paul parle de joie ici, je déborde de joie dans mon affliction, il parle d'une joie spirituelle. Pas d'une joie sentiment, émotion, humaine, naturelle, mais d'une joie spirituelle. Ça veut dire que ce n'est pas une joie qui est en lui. Elle n'est pas liée à sa personnalité, à son caractère, etc., type joyeux. C'est la joie de Dieu qui vient en lui et qui s'exprime dans sa situation. Et ça, je me dis, c'est un bon exemple de la réalité de Pâques. Dans nos situations, la mort nous entoure. Nous sommes entourés de mort. Mais en nous est la vie de résurrection du Christ. Et il y a le choix. Soit c'est la mort qui vient nous oppresser et nous colorer, soit c'est la vie en nous qui vient altérer, qui vient modifier, qui vient impacter la mort autour de nous. Et il y a un choix. Et ce choix est basé aussi sur une compréhension. Et ce que j'affirme ce matin, c'est que la vie en nous est plus puissante que la mort autour de nous. Et que cette vie veut se libérer autour de nous, et pas l'inverse. Alors peut-être, et Dieu connaît chacune de nos situations ce matin. Il y a un frère qui m'a partagé quelque chose, ça m'a touché ce matin. On peut être affligé, on peut être oppressé, on peut être triste à cause de choses vraiment tristes. Mais il y a une joie en nous, il y a une force en nous qui veut toucher, atteindre cela. Regardons les choses dans ce sens, parce que Dieu veut le faire. Ça, c'est Pâques. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Ça, c'est le bon mouvement. C'est la vie qui coule à travers de nous. Et ça, Dieu le fait à travers de nos vies paradoxales, à travers de nos vies qui ne sont pas si brillantes, glorieuses que cela. Mais Dieu nous voit avec gloire. Nous sommes glorieux. Il y a une puissance dans nos vies. Il y a une gloire qui est dans nos vies. Seulement, on peut le voir avec les yeux humains. Alors on ne verra rien, on verra que l'échec, que la pauvreté. On peut le voir avec les yeux d'en haut. Et là, on voit la gloire, la puissance et la force. Un jour, je me suis posé la question... Paul, quand il parle, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, on est vraiment très très haut niveau, que parfois on peut se dire, mais ouais, c'est bien, c'est Paul quoi, mais c'est pas moi, c'est pas pour moi. Ou des fois, comme quand on lit les évangiles, on dit ouais, c'est Jésus, ouais, c'est facile, c'est Jésus, mais c'est pas pour moi. Et à partir de là, je me suis toujours dit, il y a deux manières de lire ce qu'écrit Paul. On peut se dire, waouh, super Paul, Superman, super Paul, génial, mais pas pour moi. Ou alors, on peut lire Paul comme le grand frère, qui exhorte chaque lecteur comme un Timothée, et qui dit, imite-moi, je te donne un modèle, un exemple à suivre, fais comme moi. Et c'est vraiment l'intention de Paul. Quand il décrit ça, mon but est de le connaître. Lui est la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire, je veux faire l'expérience de sa résurrection, de sa puissance en moi tous les jours. Il ne dit pas ça parce qu'il a atteint un niveau spirituel. Parce que juste après, il dit, avançons ensemble, soyez mes imitateurs. Presque il se mettrait à genoux devant nous, puis il nous dirait, mais imitez-moi, c'est le chemin. C'est ça qu'il nous faut vivre. Il y a un piège, alors je pense que je l'ai déjà dit dans la prédication précédente, mais bon, je le redis, je me dis on a le droit de se répéter, hein, on ne voudrait pas. Pendant longtemps, même j'ai cette tendance, comme ça, je crois qu'on la partage, la tentation de fixer mon regard sur moi et de me regarder et de dire ouais mais je ne suis pas assez ça, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort. Je ne suis pas assez relationnel. Moi, je suis un gars pas très... Je me sens comme ça. Je ne suis pas assez spirituel, je ne suis pas assez dans l'esprit, etc. On peut se faire plein de choses comme ça. Et puis, on se retrouve dans une situation où justement Dieu nous dit, mais vas-y, fais ça. Et là, on dit, mais non, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Paul, oui, mais pas moi, pas moi. Et on a des histoires dans la Bible, plein, mais celle qui me parle, c'est Moïse et Gédéon. Et quand Dieu les appelle, quand Dieu leur dit, fais ça pour moi, ils répondent tous, mais qui suis-je? Et Dieu, il répond toujours, je suis. Je suis. Fixez nos yeux sur Dieu. Nous voyons des vases de terre. Mais Dieu demande que nous portions notre regard sur ce trésor qui est en nous, Christ en nous, et non pas sur ce vase de terre. Christ en nous, la vie en nous, la puissance de la résurrection en nous. Focalisons nos regards sur cette vérité-là. Et je voudrais juste encore dire une chose, c'est que dans ma vie chrétienne, je faisais un peu de travail pastoral, tout ça, et un jour, je suis arrivé à un constat cinglant, fort, un constat qui résonne en moi depuis, c'est que les personnes, nous, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de puissance. On aura beau faire des super pasteurs, super bien formés, on aura beau avoir des super églises, avec des super programmes, mais ce qui change vraiment la vie des gens, c'est la puissance. Et dans ce sens, quand je lis un texte comme ça, je comprends, j'entends Dieu me dire, la puissance n'est pas une option. La puissance n'est pas une option. Elle est un besoin profond des gens autour de nous et des gens autour de nous, de la société, du monde. C'est la puissance. La puissance qui vient de la résurrection du Christ. La puissance de la vie. Nous avons besoin de puissance. Et j'entends toujours Dieu me dire, mais avance dans cette voie, cherche la puissance. Et vous savez, je crois, j'ai la certitude que la puissance ne se limite pas au spectaculaire. La puissance, on colle miracle, on colle truc surnaturel, de dingue. Mais je crois que la puissance, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus simple. Aimer avec puissance, sourire avec puissance, servir avec puissance, prier avec puissance. Des choses, nous avons tous la capacité de le faire. Pas à cause de notre niveau spirituel, pas à cause de nos grades dans l'Église, à cause de Christ en nous, de Christ en nous. La puissance de la résurrection en nous. Alors je voudrais terminer ce message avec une phrase de Paul, toujours dans le même passage, mais qui m'a percuté. Il dit, à cause de lui, de ce Jésus-là, de ce Jésus qui s'est révélé à moi, qui m'a pardonné alors que j'étais le plus immonde des pécheurs, de ce Jésus-là qui m'a appris ce que c'est l'amour, de ce Jésus qui m'a fait connaître la puissance de Dieu, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je veux finir sur ces paroles. J'ai accepté de tout perdre. Alors que Paul était si bien lancé dans une vie brillante, réussite aux yeux de ce monde, j'ai accepté de tout perdre. Parce que la connaissance de ce Jésus-là a tellement bouleversé, ça a été un basculement. Il a accepté de tout perdre pour lui. Et quand il dit cela, c'est pas un homme triste. C'est pas un homme dans le compromis, dans l'indécision, dans l'hésitation. Paul était un homme déterminé. Et quand il dit cela, c'est un choix libre. J'ai choisi, j'ai accepté de tout perdre. Il y a même de l'autorité dans cette affirmation. J'ai accepté de tout perdre. Pâques, c'est un moment d'autorité. Pâques, c'est un moment où les chrétiens, où l'Église affirme avec puissance, avec autorité dans le monde, tant terrestre, mais aussi devant les puissances spirituelles, Christ est vivant. Christ est ressuscité. Et ma résurrection est avec sa résurrection. Mon espérance, il me l'a donnée là. Et je crois qu'on peut répondre avec autorité à ce Christ qui a tout donné, ce matin, et je vous propose de le faire. En disant à Dieu, j'accepte. À cause de toi, j'accepte. Chacun à son niveau. Peut-être on n'est pas au niveau de Paul à dire j'accepte de tout perdre. Peut-être pas encore là, mais vous savez, Dieu est patient. Mais il y a des choses dans nos vies ce matin où on a besoin de dire à Dieu, ok, j'accepte, prends cela. Je veux avancer. Et je voudrais vraiment nous encourager, encourager l'Église à faire un pas de plus pour ce Jésus-là et à accepter de se donner à lui. Pendant la louange, j'avais cette image d'un autel et de la victime, le sacrifice sur l'autel. Et c'est comme si Dieu me disait, mais tu t'associes à cette victime, tu deviens cette victime. C'est exactement ce mouvement dont Paul parle. On s'associe à Jésus-Christ, on s'unit à Jésus-Christ. On devient comme lui victime, et c'est vrai que dans ce monde, du coup, on perd des choses. On ne suit pas nos propres trajectoires, on fait des sacrifices. Mais parce que ce passage par la mort dans notre union à Jésus-Christ débouche sur la vie, sur l'éternité, sur la résurrection. Et ce sacrifice est beau. Ce sacrifice est basé sur un choix volontaire. C'est une réponse d'amour. Et lui seul, je crois, permet de vivre une vie de puissance. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu sais révéler ta parole au fond de nos cœurs. Et je te remercie ce matin, Saint-Esprit, parce que je sais que tu as révélé, tu as déposé au fond de nos êtres ta parole. Et je prie, Seigneur, c'est que ta vie coule. Je prie que ta vie puisse balayer des murs en nous, des résistances, et que tu viennes nous conduire plus loin. Je prie que tu nous donnes de connaître l'amour qui est en toi, Seigneur Jésus, et que nous puissions recevoir ton amour et t'aimer en retour avec une plus grande mesure. Je prie, Seigneur, pour que ta puissance remplisse nos vies et que ta puissance nous saisisse et que nous soyons des Pâques vivantes partout, partout où nous sommes. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est vraie et que tu es puissant pour l'accomplir dans nos vies. Amen.